Chapitre 32. On dansera. Monsieur Lecoq, lui, n'avait rien perdu de sa victorieuse bonhomie. Il clignait de l'œil en regardant Monsieur Schwartz et adressait des signes d'amitié à Julie. Ce fut celle-ci qui rompit le silence. « Je n'ai pas compris tout ce qui vient d'être dit, » dit-elle d'une voix altérée. « Dois-je croire que M. Schwartz a trempé dans cette horrible affaire Bancel ?»« Fit M. Lecoq, chèvre et chou, chair et poisson, ça et ça. » Et comme le banquier protestait d'un geste énergique, « sans doute, reprit-il, chère madame, monsieur le baron est innocent, comme l'enfant qui vient de naître, il n'a trempé dans rien du tout. Seulement, vous savez, on est homme d'affaires. Monsieur le baron était usurier avant d'avoir un sous-vaillant. J'ai eu le plaisir de lui fournir le premier sous-vaillant. Il l'avait bien un peu gagné. Dès qu'il l'a eu, il l'a prêté à la petite semaine, image naïve et réduite de cette glorieuse chose qui s'appelle la banque. Voilà l'histoire. Il y a des vocations. Ce n'est pas la synagogue qui fait le juif. » Il prit la main de M. Schwartz et la secoua, bon gré mal gré, dans un élan de chaude cordialité, disant « Pas vrai, Jean-Baptiste, nous avons la conscience pour nous, c'est le principal. Mais ne nous égarons pas. Où en étions-nous ? Ah, à Gagarbois pour les habits noirs. Non, pas encore. Nous en étions aux raisons qui excusent Madame la Baronne par rapport à la bigamie. » Elle n'a aucun tort de son côté, entendez-vous, bonhomme, elle croyait son mari mort, elle l'a pu convoler, c'est la loi divine et humaine, sauf chez les Bengalis qui exigent la combustion de la veuve du Malabar. Elle aurait pu vous faire sa confession, direz-vous, pas fort, telle que vous la voyez, elle a sur les épaules, de belles épaules, une petite condamnation par contumace à 20 ans de travaux forcés pour dame. Ah, mais ma femme, s'écria le baron éperdu. Oh, pas davantage, répondit monsieur Lecoq. Et j'ai dans ma folle idée que le mariage était un peu pour elle un refuge, quoique vous méritiez bien d'être adoré pour vous-même, Jean-Baptiste. Vous devinez quel était le vrai nom de Giovanna Reni, n'est-ce pas ? « Je ne veux pas deviner, » prononça M. Schwartz entre ses dents serrées. « Ces choses-là, » rectifia Lecoq tranquillement, « c'est involontaire, on devine ou on ne devine pas. Si vous ne devinez pas, bonhomme, je vais vous aider. Le soir où vous reçûtes le divin billet de 1000 francs, 400 billets semblables furent piqués dans la caisse de M. Bancel. André Ménotte, qui fut condamné... « Assez !» dit M. Schwartz, en passant son mouchoir sur son front. « Est-ce vrai, demanda M. Lecoq, que ses cheveux étaient déjà tout blancs quand vous le rencontrâtes à l'île de Jersey, 6 ou 8 mois après l'affaire ?»« Assez !» répéta le banquier avec détresse. « Il y a là-dedans une fatalité !» La respiration de Julie sifflait dans sa poitrine. « En voilà un, poursuivit M. Lecoq, qui ne doit pas vous porter dans son cœur. Mais ne perdons pas le fil. Nous en sommes toujours aux raisons de madame. Bonhomme, vous allez m'accorder que quand il s'agit de la vie ou de la liberté, on ne se confie pas même à l'amour. » Et il appuya sur ce dernier mot avec une souriante ironie et continua. « Julie Ménotte était précisément dans ce cas-là. La condamnation d'André Ménotte l'atteignait. Pouviez-vous exiger qu'elle vînt vous dire « Bibi, je suis la veuve d'un forçat et forçate moi-même. Voulez-vous épouser 20 ans de travaux forcés et le petit de mon premier hymen ?» L'eussiez-vous fait à sa place, vous, Jean-Baptiste. Vos peccadilles à vous, les avez-vous confessés ?» Son rire grinça parmi un silence de plomb. La baronne restait glacée et semblait une femme de bronze. M. Schwartz s'affaissait davantage à chaque coup de massue. « Et qui a gagné à cette foire normande du mariage ?» reprit M. Lecoq en atteignant sa pipe qu'il repoussa aussitôt avec un salut à l'adresse de la baronne. Vous êtes resté patot, mon bon, et vous avez une des femmes les plus distinguées de Paris. Voilà 17 ans que vous l'idolâtrez. Elle a satisfait à la fois votre cœur et votre vanité. Vous êtes, du reste, vous, l'homme de bourse, collé à la grande dame. Ne vous plaignez pas, on vous rirait au nez. Ne parlez pas de séparation. Votre union est nulle, ce qui fait votre fille bâtarde depuis la racine de ses cheveux jusqu'à la pointe de son pied mignon. Tout cela est vrai, murmura le baron, tout cela doit être vrai, puisqu'elle ne proteste pas. Tout cela est vrai, dit la baronne. La poitrine de M. Schwartz rendit un gémissement. La plume de trois pattes traça quelques mots sur le papier, tandis qu'il grondait d'un accent étrange. Tu es témoin et greffier et juge. Bilan général, reprit Monsieur Lecoq, en se mettant de plus en plus à son aise, tromperie partout. Première tromperie côté du mari, seconde tromperie côté des dames, mêlons, et passons à quelque chose de bien autrement sérieux, quoi qu'en puisse penser ce pauvre Monsieur Schwartz, que je croyais un homme et qui s'aplatit comme un tampon de linge mouillé. Bonhomme, nous allons avoir besoin d'énergie si nous voulons tirer notre épingle du jeu. Un Gaillardbois est un rude limier, et il a le nez sur la piste. Il est capable de remonter jusqu'aux 1 000 francs du chemin creux. Le colonel, votre commanditaire et votre client, étaient là-dedans jusqu'au cou. La comtesse Corona est l'héritière du colonel. Je ne veux pas vous énumérer tous les talents de cette charmante femme. Tout cela est grave, et tout cela n'est rien. André Ménotte est à Paris. Ah! fit la baronne en un cri involontaire. Monsieur Schwartz la regarda. Une angoisse nouvelle faisait diversion à sa détresse. La plume devint immobile entre les doigts de l'estropié. André Ménotte se porte comme un charme, poursuivit Lecoq, dont l'effronterie laissait passer une nuance d'embarras. Voilà le danger principal, le vrai danger, car André Ménotte est un scélérat. Vous mentez, coupa la baronne d'une voix nette. À ce mot, trois pattes tressaillit de la tête aux pieds, comme s'il eût reçu la décharge d'une pile voltaïque. Monsieur Lecoq s'inclina, remerciant avec ironie. Nul n'insultera devant moi André Ménotte, dit la baronne, dont la noble taille s'était redressée. Le baron balbutia dans l'excès de sa misère. Vous êtes donc toujours la femme de ce condamné? Oui, répondit-elle sans hésiter, dans mon cœur, toujours. L'estropié prit à deux mains sa tête chevelue. L'idée ne m'était jamais venue de me brûler la cervelle, pensa le baron dont les yeux s'égaraient. L'effet médité par Lecoq se produisait avec une effrayante violence. Le baron chancelait sous le choc trop brutal. Un grand éblouissement passait devant cet esprit formaliste et froid, habitué à des calculs, ne sortant jamais de ce cercle où l'algèbre de la bourse parque ses ingénieuses équations. Une lueur de foudre établissait parmi les menaces qui l'affolaient une rapide et éclatante balance. Il voyait à la fois ce qui naissait de la fatalité et ce dont sa conscience lui reprochait la coupable origine. Car il y avait de ceci et de cela dans le malheur de cet homme. Son premier pas sur la route de la fortune piquait son souvenir comme la pointe d'un couteau. La mémoire de l'acte qu'il avait lié à une femme aimée était un remords. Il avait en outre ses rapports avec le colonel. Monsieur le baron Schwartz fut épouvanté par les paroles de Monsieur Lecoq, parce qu'il n'était pas pur selon sa propre conscience. Il se croyait, du moins, jusqu'à l'heure présente, net devant la loi, mais la conscience seule est à l'abri de l'erreur. Tout le reste se trompe. Quand ceux-là se sont trompés dans le bilan quasi loyal de leurs accommodements, la loi, leur fétiche, se dressant tout à coup en face d'eux, les change en pierre. Le baron Schwartz vit cette tête de méduse. La loi qu'il abandonnait, la loi qui était contre lui. Rien de pareil ne se passait dans l'esprit de la baronne. Non point qu'il n'y eût au fond de son cœur une voix capable de faire entendre des reproches, mais au contraire parce que cette voix, depuis longtemps, parlait. Un jour, c'était peu de temps après la naissance de Blanche, le ménage allait paisiblement, quoique la jeune femme eût d'étranges mélancolies. L'élément affectueux ne manquait même pas tout à fait dans la maison, car il y avait autour d'un berceau chéri, je ne sais quelle atmosphère de tendresse. Un jour, M. Schwartz s'absenta. C'était la première fois que Julie restait seule. Elle se rendit à Saint-Roch et commanda une messe mortuaire à laquelle nul ne fut invité. Au retour de cette messe, où elle avait abondamment pleuré, elle se prépara pour un voyage. Nous avons le secret de cette mélancolie. L'autre enfant était loin, le cher enfant adopté par la nourrice Madeleine. Julie ne pouvait plus résister. Il lui fallait un baiser de son fils. M. Schwartz n'était encore ni baron ni millionnaire. Julie se fit apporter une des malles de son mari pour voyager en poste. La malle avait l'estampille du paquebot de Jersey. Julie n'était ni jalouse ni espiègle. Le fond de son caractère était la réserve de ceux qui ont un secret à garder ou un souvenir à éteindre. Pourtant, elle ouvrit cette malle avec un mouvement de curiosité. Dans cette malle, il n'y avait rien, sinon une enveloppe poudreuse qui ne portait aucun timbre et qui était bourrée de papier. Mais le paquet avait une adresse qui sauta aux yeux de Madame Schwartz comme un éblouissement. Une défaillance la prit. Quand elle recouvra l'usage de ses sens, elle s'empara du paquet comme on fait d'une proie. Elle resta tout le jour enfermée dans sa chambre à lire et à relire. Le soir, elle partit pour le pays de Madeleine. À la voir, on eût dit qu'elle avait fait une longue maladie. L'enfant n'était plus chez Madeleine. On avait volé l'enfant 2 semaines après le mariage de Madame Schwartz, que la nourrice appelait toujours Madame Ménotte. Julie eut chez Madeleine le récit de la visite d'André, revenant de Jersey. De retour à Paris, elle garda la chambre plusieurs mois. Depuis lors, on la vit toujours pâle et triste. Elle souffrait, disait-elle, et les habiles médecins qui avaient soin d'elle conseillèrent gravement à son mari de la distraire. Le paquet contenait la série entière de ces pauvres lettres confiées par André Ménotte à M. Schwartz lors du voyage à Jersey entrepris par ce dernier à la poursuite d'un débiteur insolvable. De la part de M. Schwartz, tel que nous le connaissons, y avait-il eu trahison ou seulement négligence égoïste? Nous savons qu'André, persécuté par la crainte de mettre la justice sur les traces de Julie, n'avait point livré son secret. En ceci, comme en toute chose, M. Schwartz, moitié chair, moitié poisson, ne devait être ni complètement innocent, ni tout à fait coupable. Ce fut M. Lecoq qui reprit le premier la parole. Je ne suis pas de ceux qui méprisent inconsidérément ce moyen-là, se brûler la cervelle, dit-il. Quand le rouleau est à bout et qu'en se tâtant bien, on trouve de la tête aux pieds chair de poule mouillée, assurément, ma foi, un coup de pistolet peut arranger les choses, mais c'est bête. Ce dernier mot fut prononcé avec solennité. La tête de M. Schwartz pendait sur sa poitrine. Aimez-vous votre femme? Demanda Lecoq. Le malheur attendrit ses cœurs d'affaires. M. Schwartz tourna vers la baronne un regard suppliant et timide. Ses deux mains se joignirent et il répondit: Je l'aime de toutes les forces de mon âme. C'était vrai, absolument vrai. Si votre mari était contraint de s'expatrier, reprit M. Lecoq en s'adressant à Julie, j'entends le mari que voilà, le suivriez-vous? Oui, répliqua la baronne d'un ton ferme. Ce mot releva la tête de trois pattes qui sembla sortir d'un sommeil. La pression de ses mains avait écarté à droite et à gauche les masses emmêlées de sa chevelure. Soit de réalité, soit capricieux jeu de lumière, car la lampe l'éclairait à revers, son visage paraissait doué, en cet instant, d'une mâle et régulière beauté. Il avait les yeux fixés sur Julie, qui lui faisait face et dont la main rejetait son voile en arrière. Ses paupières eurent un battement, comme si un éclat trop vif les eût soudain frappées. Elle était belle incomparablement. Son front d'italienne, pur et noble comme un marbre, avait une auréole de grave tristesse. Ce n'est plus pour moi que vous viendrez, Giovanna, dit M. Schwartz d'un ton plaintif, c'est pour votre fille. Elle ne répondit point, mais un splendide sourire, traduisant l'amère souffrance de son cœur, s'ébaucha sur ses lèvres. Pour sa fille, répéta monsieur Lecoq, c'est juste, mais pour elle aussi, un petit peu. Le regard qu'elle lui jeta lui fit baisser les yeux. S'il se fût agi autrefois de l'échafaud, prononça-t-elle lentement et tout bas, mais de cet accent qui scande chaque syllabe mieux que ne le ferait un cri, j'étais prête, je le jure, de mourir avec André. J'ai mérité pourtant d'être insulté par vous, car j'ai été lâche, lâche comme la pensée de la prison, plus dure que la mort même, lâche contre la pensée de vivre, avec la honte. Deux larmes s'échappèrent de ses yeux et roulèrent sur sa joue. La gorge de l'estropié eut un râle sourd. Monsieur Lecoq se frotta les mains tout à coup en homme qui a une bonne idée. « Ma foi, dit-il, ça n'a pas été sans peine, mais il me semble que nous voilà tous d'accord. » Et comme les regards des époux l'interrogeaient, il ajouta « Nous sommes dimanche, je propose de fixer le départ à mercredi. » « Sitôt, balbutia le banquier. « Oh, je veux que la fortune de mon fils soit solidement assurée, stipula la baronne. » Monsieur Schwartz reprit « J'ai d'immenses ressources. » Je n'ai jamais fait de mal, avant d'en arriver à une extrémité pareille. Allons, l'interrompit Lecoq avec résignation, il faut recommencer. Voici de rechef et en réitérant le bordereau de votre situation. Cas de bigamie, qui demain peut être notoire, ceci individu entre vous deux. Du côté de la baronne, 13 ans à courir pour compléter la prescription de l'arrêt de la cour royale de Caen. Du côté de monsieur le baron, voyons, allons-nous faire la chasse aux présomptions? Le gibier ne manquera pas, au moins. Comptons sur nos doigts. Présence de monsieur Jean-Baptiste Schwartz à Caen la nuit du 14 juin 1825. Mensonge glissé par le dit à l'oreille de son homonyme, le commissaire de police. Somme reçue dans le chemin creux, départ dans la même voiture que la femme du condamné Ménotte, une belle créature qui, si l'on en croit l'arrêt de la cour, dut emporter dans sa poche les 400 000 francs de la caisse Bancel. Mariage subséquent de ce monsieur et de cette dame, reconnaissance par monsieur et madame de 400 000 francs, le chiffre est rond et joli, eh? Ici, le coq s'interrompit tout à coup. Parce que le baron Schwartz avait un pâle et froid sourire. On l'attaquait à une place où sa conscience n'était point vulnérable. « Oh, fit le coq, tant, argent, nous faisons fausse route. Ce n'est pas ainsi qu'il faut parler à un gaillard de votre force. Mettons que je n'ai rien dit et reprenons. Du côté de monsieur le baron, morbleu, néant, où avais-je la tête? Seulement, il y a la comtesse Corona et ce luron de Gaillardbois, sans me compter. Et si on ne m'écoute pas, il faudra bien me compter. L'accusation au criminel tombera d'elle-même. Parbleu, contre les gras millions, les présomptions sont de trop petites demoiselles. Et pour ce qui regarde le colonel, est-on forcé de savoir que les habits noirs ne sont pas des êtres fantastiques et que le chef des habits noirs... Laissez donc, il n'y aurait plus d'affaires. N'importe quel banquier peut manier les fonds de n'importe quel voleur sans qu'il y ait l'ombre de délit ou de crime. L'argent n'a pas plus de signalement que d'odeur, mais voici la justice dans vos affaires, bonhomme. Eh, ce n'est pas drôle, Jean-Baptiste. Savez-vous pourquoi les chiens et les loups s'entremordent? C'est qu'ils sont cousins. Le chien est un loup manqué. Un homme négociant au cachet, chiffreur avide, nourri de jalousie et de fiel, harcelé par les millions qu'il n'a pas, accusant les mansuétudes de la loi et les cruautés du sort, fruit sec de l'école qui prépare aux commandites, le loup des chiens et de l'usure, et le chien des loups, cet homme vous guette, vous êtes sa proie convoitée. Il est pauvre, il aimerait, lui aussi, le vice qui coûte et l'argent qui rapporte. Son stoïcisme est menteur ou forcé. Vous avez été sa fièvre, tant votre bonheur poigna souvent sa misère, qu'on vous donne à lui, sous prétexte d'expertise, ses ongles s'allongeront pour fouiller votre chair. Il sait trouver le mal qui existe et créer le mal qui n'existe pas. Il est habile, haineux, clairvoyant. Il invente à 16 heures des roueries que vous n'auriez même pas soupçonnées, vous, le roué du genre. Et il vous les prête généreusement. Il y va de tout cœur, comme un basset à la curée. Ce qu'il ne dévore pas, il le souille. Et bien des gens, croyez-moi, des gens paisibles, qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, applaudissent des pieds et des mains son orgie. Car vous n'êtes pas aimés, vous autres millionnaires. Jean-Baptiste, dites le contraire, je vous en défie. Monsieur Schwartz avait l'œil fixe et le front humide. Vous n'êtes pas aimés, poursuivit monsieur Lecoq, dont la voix incisive et sèche enlevait un copeau à chaque parole comme la hache d'un charpentier. Les petits vous regardent avec défiance. C'est étonnant que vos bras croisés puissent gagner de si insensés salaires. Les grands s'impatientent de voir auprès de leurs épaules vos têtes mal décrassées. Les timides ont peur de vous, parce que vous défiez et provoquez les passions mauvaises, comme ces sébiles insolentes qui raillent les affaires derrière les carreaux des changeurs. Les forts vous méprisent, parce que vos sacoches amoncelées ne vous servent à rien de grand. L'or, pour vous, maniaque de la cupidité, n'est qu'un moyen de gagner de l'or. La misère vous maudirait alors même que vous seriez bienfaisant. La richesse territoriale, la vraie richesse, s'indigne du bruit scandaleux que font vos écus. Les honnêtes gens vous jugent avec une sévérité aveugle et injuste, car peut-être êtes-vous souverainement utile à la fortune publique. Mais vous ne payez pas d'impôts, et ceux que l'impôt écrase vous abhorrent. Enfin, les coquins eux-mêmes complètent l'unanimité, voient en vous des concurrents dangereux, des supérieurs, si vous voulez, et vous gardent une vitriolique rancune de confrères. Aussi, monsieur le baron Schwartz, sauf moi le coq qui ait mes raisons pour vous soutenir, dans une certaine mesure, et qui ne vous cache pas ce motif intéressé, Paris tout entier s'amusera jeudi prochain. Non, je dis le mot vrai, s'amusera et applaudira en apprenant que les scellés sont sur vos livres et que l'expert a mis son enragé museau dans votre champ de truffes. J'ai dit, maintenant agissez comme il vous plaira, je m'en lave les mains. Monsieur Lecoq repoussa son siège et vint se mettre au devant de la cheminée, les bras croisés derrière son dos. Monsieur, dit la baronne en s'adressant à son mari, vous m'avez demandé si je vous suivrais. Changez d'avis, interrompit monsieur Schwartz, reprenant sa syntaxe abrégée avec un aplomb tout à fait inattendu. Inconvénient d'une fuite crève les yeux, préfère rester. Idée. Monsieur Lecoq eut un sourire sceptique et narquois. Un plus brave, dit-il, parodiant le laconisme du financier. Moins sûr. « Moi, déclara Madame Schwartz, je partirai avec ma fille. »« Sage, opina Monsieur Schwartz. »« Comme image, acheva Lecoq en ricanant. » Le baron se leva. « Mon cher monsieur, dit-il d'un air dégagé, vous cachez, sous des formes bizarres, un grand sens et beaucoup de dévouement, je le sais. Je ne refuse pas du tout de faire le compte des intérêts que je reconnais avoir reçu de vous en 1825, quoique, paraîtrait-il, vous ayez prétendu acheter à ce prix mon silence à propos d'un crime ou d'un délit auquel vous auriez participé à mon insu. J'ai cru comprendre cela. 10 ou 12 000 louis, ou même davantage, sont une bagatelle pour moi. Réfléchissons tous deux. Je donne mercredi soir un petit bal pour la fête de ma fille. J'ai l'honneur de vous y inviter, et madame la baronne fait de même. » Il offrit son bras à sa femme, qui le prit. « On dansera ?» demanda monsieur Lecoq ironiquement. « On dansera, » répliqua le banquier, qui salua. La baronne dit tout haut, en passant le seuil, « J'aurai à vous parler demain, monsieur Lecoq. » À son tour, Lecoq s'inclina, mais en silence. Quand il fut seul, il plongea ses mains dans les poches de sa robe de chambre et resta pensif, debout, au milieu de la chambre. Un battant qui grinçait en roulant sur ses gonds lui fit lever les yeux. Il vit trois pattes pelotonnées devant sa table et tenant encore sa plume à la main. La lumière de la lampe éclairait d'aplomb l'étrange visage de l'estropié. Un instant, monsieur Lecoq le regarda sans parler. Trois pattes souriait. « Pourquoi ris-tu, toi ? » lui demanda rudement Lecoq. « Parce que c'est drôle, » répliqua l'estropié. Puis, après un autre silence, il reprit « Ce Michel Ménotte était donc innocent, là-bas. » Lecoq haussa les épaules et se mit à marcher dans la chambre. Au deuxième ou troisième tour, il s'arrêta devant trois pattes qui le regardaient toujours. « Hein, toi, » grommela Lecoq, « sans monsieur Bruno, je t'étranglerai. » « Ce ne serait pas bien difficile, » répondit l'estropié. « Il y a des moments où tu me fais peur, » poursuivit monsieur Lecoq, en se parlant à lui-même. « Mais je sais que ce Bruno est André Ménotte, je le sais. C'est moi qui vous l'ai dit, patron. »« C'est vrai. » L'œil de Lecoq, défiant et dur, était braqué sur lui. « Elle est fièrement belle, cette baronne Schwartz, » dit l'estropié, dont les yeux eurent une étincelle. « Je suis fou, » gronda Lecoq, qui tourna le dos pour reprendre sa promenade. « Est-ce que je ressemble de près ou de loin à cet André Ménotte ?» demanda Trois Pattes. « Pourquoi ?» fit Lecoq, qui s'arrêta court. « Parce qu'elle a gardé des idées pour lui, » repartit l'estropié, avec une sorte de puéril cynisme, « et qu'alors, si je lui ressemblais... » « Je suis fou, » répéta Lecoq. « Tu sais, ajouta-t-il, que je les ai roulés de pied en cap. Il a voulu se garder à carreau pour le cas où je le dénoncerais à la préfecture, mais à l'heure qu'il est, son départ est décidé. Mais ce bal, c'est ce bal qui le trahit. Le truc est usé. Mercredi, les provisions seront faites. J'évalue à 4 ou 5 millions ce qu'il aura pu rassembler. En banknotes, s'il va en Angleterre, pas la queue d'une banque-note, cela donnerait l'éveil. Il prendra de beaux et bons billets de banque, comme s'il s'agissait d'une échéance extraordinaire. Hein, je le connais, il est adroit pour les petites choses. Et sa femme? Ah, sa femme en vaut 10 comme lui. Ah, je te charge de Bruno. Entends bien ceci. Il y a un obstacle entre Bruno et la baronne. Je le connais puisque je l'ai élevé. S'il tombait, et un mot de la baronne... le ferait tomber, hein, garde-sous. Veille au grain, monsieur Mathieu, car tu as le bon poste, et si tu t'endormais dans ta guérite, tu ne t'éveillerais pas. Je ne dors jamais que d'un œil, patron. Monsieur Lecoq le regarda encore. Il n'y avait rien sur ce visage pétrifié. Monsieur Lecoq passa le seuil du corps de garde et lut le papier par-dessus l'épaule de Trois Pattes. 20 lignes, grommela-t-il, et tout y est. Signe, il faut que monsieur et madame Schwartz sachent demain qu'il y avait près d'eux un témoin et un greffier. Sans hésiter, Trois Pattes signa son nom de Mathieu et paraffa. Dans la maison Schwartz, dit-il, non sans fatuité, on connaît ma signature. Lis ceci, ordonna monsieur Lecoq, en lui mettant dans la main le travail de Picpus. « Ah, tiens, tiens, » fit l'estropié, « alors, tout ce que vous avez fait, c'est pour enfler la caisse avant que de la vider. » Monsieur Lecoq répondit par un signe de tête souriant. « Ah, bien mignon ce tour-là, » murmura Trois Pattes, « mais à quoi serviront les faux billets ?» Monsieur Lecoq avait l'orgueil de l'auteur applaudi. « Tu verras, » dit-il, « c'est le plus beau. » Il se frotta les mains et reprit « Nous aurons besoin d'acteurs et de comparses. Tu auras demain la distribution des rôles et tu choisiras ton monde à l'estaminet de l'épicier. Entendu, patron. Tu as, en outre, le tirage des billets. 4 millions, au moins. Entendu. Et monsieur Bruno, surtout monsieur Bruno. Celui-là, patron, dit Trois Pattes bonnement, je vous promets de ne le pas plus quitter que mon ombre. » Fin de la deuxième partie.